Parmi les trois textes qui nous sont proposés aujourd'hui, je garde celui de Jean 13, les versets 31 à 35, c'est les versets qui nous sont proposés pour aujourd'hui, mais pour comprendre un petit peu mieux le passage que je vais lire à la fin, les versets 31 à 35, je vais lire un peu avant. Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et annonça solennellement « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé tout à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se penche alors tout près de Jésus et lui demande « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prend un morceau de pain, le trempe et le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Après que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu es sur le point de faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, plusieurs pensaient que Jésus lui demandait d'aller acheter ce dont ils avaient besoin pour la fête, ou de faire un don aux pauvres. Judas prit donc le morceau de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme est révélée, et la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se révèle en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire du Fils, et il le fera très prochainement. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, et tout comme je l'ai dit aux autres, je vous le dis aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Voilà une conversation étrange qui réunit Jésus et les disciples. Dans un passage qui suit le lavement des pieds, et l'annonce de la trahison de Judas que je viens de relire un peu avant. Le traître, justement, vient de sortir pour prendre ses dispositions, faire ce qu'il a à faire, élaborer son piège, si c'est un traître. Dans les versets que j'ai relus un peu avant, 21 à 30, on a davantage l'impression qu'il est désigné par Jésus, ce curieux processus de tremper son pain et puis de le donner à quelqu'un, et de le désigner à l'issue d'un arrangement auquel nous n'avons pas assisté et dont l'objectif échappe à tout le monde, aux disciples sur le moment, et à nous aussi, si longtemps après, nous qui relisons ce passage. Dans les lignes qui précèdent les versets 31 à 35, les disciples sont déjà plongés dans une sorte de malaise, et ils vont traîner cet état étrange jusqu'aux différentes apparitions du ressuscité, c'est-à-dire qu'ils vont garder ça, ce poids sur les bras ou sur les épaules, pratiquement la moitié de l'évangile de Jean. Ils vont traîner ce poids, cette difficulté de voir l'avenir, de comprendre ce qui se passe. La confiance ne les a pas encore complètement quittés. Ce n'est pas le moment encore d'être seul, de voir Jésus s'en aller comme il l'annonce, mais elle est déjà mise à rude épreuve. Quelque chose de grave est sans doute sur le point d'arriver, ils en ont l'intuition, mais aucune information ne leur permet d'affronter cela ensemble, avec force, et puis dans l'unité, de faire front, si vous voulez. Rien ne leur permet d'affronter cela, cette trahison qui vient et dont on ne sait quasiment rien, ni quand, ni comment, elle va survenir. Et Jésus ne les aide pas non plus. avec des propos évasifs comme « là où je vais, vous ne pouvez pas venir ». Ils ne peuvent pas penser à autre chose en entendant ça que « il va t'arriver quelque chose de terrible et nous ne pouvons rien faire pour t'aider, rien faire pour l'empêcher ». Cette Pâque était un dernier repas, mais ils n'étaient pas au courant. Aucun des disciples ne s'en doutait. Deux personnes, pourtant, dans le lot, semblaient savoir. Jésus et Judas. Tout paraît avoir été bien préparé, aussi bien que le repas. Les circonstances, le départ de Judas, les choses à annoncer aux disciples pour les ménager, leur en dire un petit peu, mais pas trop. Il reste que nous avons, que nous aurons toujours, en relisant ce passage, beaucoup de mal à expliquer la trahison de Judas. Qu'elle soit une vraie trahison crapuleuse avec l'argent pour mobile, ou un savant calcul entre Jésus et Judas et dont les ressorts nous échappent à nous aussi. Pourquoi s'y prendre comme ça? Qu'est-ce qui a pu motiver Judas? Est-ce qu'il a cru que Jésus n'avait aucune chance de se sortir de cette histoire, déjà à ce moment-là, que son ministère n'avait suscité qu'une opposition très sourde et de plus en plus dure, de plus en plus hostile? Est-ce qu'il s'est persuadé que le meilleur moyen était peut-être encore d'en tirer un peu de profit? On ne sait pas. L'hypothèse paraît logique, mais elle ne concorde pas avec les circonstances. Rien n'empêchait Judas de quitter la chambre haute avant qu'on évoque l'idée de sa trahison à haute voix et devant lui, en l'incriminant, en le mettant en cause devant tout le monde. Au contraire, on parle en sa présence et lui sort de là, tranquillement, un peu comme s'il allait revenir 20 minutes plus tard. Le seul sentiment qui reste parmi les disciples, c'est l'incompréhension. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Nous non plus. C'est bien de ne pas être tout seul dans l'incompréhension. Et chez eux, pas une once d'indignation, ni de colère, cette espèce de sidération poisseuse comme ça qui les laisse immobiles, un peu comme quand on est abasourdi par un flot de paroles auquel on ne comprend rien ou pas grand-chose, mais sans oser faire répéter par peur de gêner. Ils sont assommés par ce qui leur arrive et ils n'osent pas demander. Les disciples sont chaos debout et ils le resteront jusqu'à la pêche miraculeuse que nous avons d'ailleurs relue il y a peu de temps après Pâques. Évidemment, il y a d'autres explications. Il y a beaucoup de théories sur Judas. Toutes intéressantes, des scénarios même. Certains ont avancé que Judas était une sorte d'exalté qui avait voulu, un activiste, on dirait aujourd'hui, qui avait voulu un peu précipiter l'avènement d'un royaume qui tardait à s'installer en forçant un peu le destin, si vous voulez, balancer le maître, permettait de provoquer la révélation que Jésus était bien le Fils de Dieu. Judas accélérait un peu les choses, c'est tout, en y mettant un peu du sien. Un petit coup de pouce, comme un catalyseur accélère une réaction chimique. On la pousse un peu pour ne pas perdre trop de temps. Mais là encore, cette version s'accorde assez mal avec le récit des évangiles. Rien à faire chez Jean. Jésus était au courant de ce projet. On comprend mal comment il a pu accepter ce sort maudit, sans broncher, se laisser faire, approuver l'objectif de tout cela. Les moyens utilisés pour y arriver, comment est-ce qu'il a pu se laisser faire? La tradition chrétienne a bien retenu que Jésus, au moment où on immole les agneaux du temple, parce que ça tombe juste à ce moment-là, ça tombe bien, ces deux moments qui s'alignent l'un avec l'autre ne pouvaient pas être une simple coïncidence. C'est vrai que les théologiens n'aiment pas les coïncidences. Ça survient, il faut forcément une explication. Vite, vite, une explication. Mais rien n'indique que cette lecture vient de Jésus lui-même. Il n'en parle pas. Alors, eh bien, c'est peut-être et même sûrement une lecture postérieure uniquement préoccupée par l'explication sacrificielle des événements. C'est probablement pour ça que ça a été écrit sous cette forme. Et après coup, on le sait. C'est Jésus qui ordonne les préparatifs de la Pâque. C'est lui qui préside le repas, c'est lui qui rompt le pain, mais c'est aussi lui qui paie l'addition, apparemment, d'une certaine manière. On ne nous dit pas s'il a dû aussi laver la vaisselle et balayer la chambre, on n'en serait pas vraiment étonné, finalement. Il y a encore une autre manière de voir les choses. Les scénaristes sont inventifs, on ne nous fait pas des séries sur 5 ou 10 saisons sans avoir de l'imagination. Hein. Il y a encore une autre manière de voir. Elle peut aussi se fonder d'ailleurs sur le récit de Jean, surtout si on exploite bien ses trous et ses silences. Jésus aurait été non seulement au courant de ce qui se tramait, mais il aurait même tout organisé lui-même. L'arrestation serait l'aboutissement de ce plan, en complicité avec Judas, le seul disciple qui, au fond, avait un peu de cran, un peu de courage, le courage en tout cas d'aller jusque-là avec lui, les autres n'étant qu'une bande de poltrons. Excellent scénario, n'est-ce pas ? Tout paraît tellement préparé jusque dans le moindre détail. Dans ce troisième cas, Jésus comprend que son ministère ne pouvait pas s'achever autrement que de manière dramatique par sa propre mort. C'était le seul moyen de témoigner de la vérité de son ministère. Alors allons-y, quoi, hein, jusqu'au bout. Le choix de la fête de la Pâque coïncidait effectivement avec les agneaux immolés dans le temple. Oh, ça tombe bien quand même. Ça s'emboîte assez bien, mais c'est quand même et surtout quand ça s'emboîte bien, plus ça s'emboîte bien, plus c'est difficile à envisager. Nous ne sommes pas toujours satisfaits par les explications que nous trouvons nous-mêmes. Quelle frustration, hein ? Pourquoi est-ce que ça ne nous convainc pas ? Parce que ça ne nous fait pas vraiment sortir de la thèse du sacrifice nécessaire. C'est bien le problème. Parce que là où il y a une nécessité implacable, il n'y a plus de tragique. Les choses qui surviennent sans qu'on les ait prévues, comme les disciples, sans qu'on ait tout manigancé, comme Jésus et Judas dans d'autres ou dans certains scénarios. Ça survient, c'est comme ça. Il se trouve que, pas il se trouve que, virgule, justement, on n'a pas d'explication. La mort de Jésus, si elle est rendue obligatoire, ne nous permet pas de comprendre que sur le Golgotha, le vendredi après-midi, l'humanité choisit ce jour-là, elle n'était pas obligée, de dire non merci à la proposition qui lui est faite d'une vie autre ou d'un monde autre. Ce non merci n'est écrit nulle part. Il y avait d'autres réponses possibles. Il y a bien des tas de scénarios, pourquoi pas plusieurs réponses possibles. Ce non merci n'était écrit nulle part. Il se joue dans l'instant où Jésus est crucifié et se rejoue chaque fois que l'humanité redit non merci. Assez souvent, mais pas toujours, pas toujours. Je reviens au scénario bien ficelé, aussi bien ficelé que difficile à croire, n'est pas incompatible. Pour qu'un projet aussi machiavélique que celui-ci fonctionne bien, il faut beaucoup de conditions. Il faut que la complicité avec Judas soit en béton armé, vraiment, hein, pas de faille. Il faut que Judas ne bouge pas une oreille au moment de l'arrestation de Jésus et qu'il accepte dès le départ de jouer dans cette pièce de théâtre étrange le rôle ambigu du faux traître mais vrai agent d'un plan de salut qui le dépasse par ailleurs complètement. La scène que nous avons relue sert alors à faire l'annonce de ce projet un peu dingue aux disciples complètement médusés. Et nous donc ? Et apparemment, ils n'ont pas l'air de trouver cela très évident, et nous non plus. Il faut se souvenir que les évangélistes, Jean comme les autres, ont écrit après coup en reconstituant et en essayant de trouver une cohérence théologique plutôt que logique à ce qui venait de se passer. Et le procédé ne nous surprend pas, il a déjà été utilisé à de nombreuses reprises avant, dans les Écritures qui précèdent. Toute l'histoire d'Israël est une relecture théologique et religieuse d'événements réels, dont on ne cite qu'une partie. Et les événements ne font pas l'objet d'un compte-rendu historique rigoureux, ils sont réagencés dans un récit qui essaie de trouver la trace de Dieu dans cette histoire-là. Eh bien, il faut peut-être laisser de côté tous les scénarios, n'en choisir aucun, finalement. Bon ou mauvais, plausible ou invraisemblable, convenu ou scandaleux, les qui rassurent, les qui choquent et qui remuent. Laissez tout ça, parce qu'après le départ de Judas, il ne reste plus à Jésus qu'à laisser quelques paroles qui ne sont pas une explication, mais un testament. Le testament ultime aux disciples, pour leur léguer l'essentiel. Ne pas comprendre forcément les tenants et les aboutissants d'un plan de salut compliqué, complexe, mais se contenter d'en récolter les fruits et de vivre de l'essentiel. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça tient en 1, 2, 3, 4 lignes. C'est simple, non ? Quelle simplicité après les scénarios tordus qui pourraient faire de belles pièces de théâtre ou des films, des romans entiers. Quelle simplicité ! Vivre un programme exaltant mais difficile à réaliser plutôt que boucler platement l'enquête et découvrir par qui le colonel Moutarde a été estourbi dans la bibliothèque avec le chandelier. Ou dans le presbytère à coups de calice. Je l'aime bien celle-là, je l'ai gardée. J'aime bien le verbe estourbir aussi. Il est rare. Oui, toutes nos explications restent en plan. Toutes nos enquêtes, notre passion pour Rouletabille, pour Edgar Poe, pour le moindre détail, vous savez ce qui explique tout. Tout ça reste en plan. Jésus ne répond pas du tout à notre besoin d'avoir une théorie solide sur ce qui nous sauve. Il s'en fiche. C'est pourtant ce que les églises ont fait en permanence après ces événements. Mais c'est un peu comme s'échapper de la vie après avoir lu dans un bouquin en quoi elle consiste, le refermer et passer à autre chose. On a satisfait son esprit pendant un temps, mais il reste encore l'essentiel devant soi, vivre avec la seule méthode qui vaille, un amour réciproque qui nous rassemble, un art du lien, du tricot, du tissage, enfin quelque chose qui essaie tant bien que mal de faire advenir le royaume sans que tout se déchire. C'est juste au moment où le doute, la mort et le deuil commencent à s'infiltrer dans l'esprit des disciples, puisqu'on leur annonce des catastrophes, que Jésus les repêche, bien avant la pêche miraculeuse qui viendra beaucoup plus tard. Déjà à cet endroit-là, il les repêche, en leur parlant d'un amour qui doit les unir. Vous verrez, à la fin, avec toutes vos explications, il ne vous restera plus que ça. Mais c'est ce qui vous fera sortir de l'eau. Il laisse de côté, après le départ de Judas, les histoires sordides ou tordues sur le sens des choses ou de la vie. Ils reçoivent en échange, sans s'y attendre, une invitation à vivre qui ne se trouve pas dans nos spéculations ni dans les théories inventées par les églises et auxquelles nous tenons beaucoup pour consolider leur pouvoir autour d'un savoir soi-disant immuable. Finalement, ce récit un peu troublant n'a peut-être pas l'importance que nous croyons. Il est très périphérique, finalement. Pour une raison simple, il n'intervient en rien dans le dernier message de Jésus. Tout se passe comme s'il fallait que ces hypothèses prennent leur place, qu'on les écoute avec déférence et politesse, avant de les balancer, de n'en tenir pas compte. C'est pas très chic d'écouter quelqu'un longuement pour s'empresser de ne pas tenir compte de ce qu'il vient de dire, mais si ce sont des âneries, finalement, on a été poli pendant un moment, et puis on évite de se tromper. C'est bien, finalement. Tout se passe comme s'il fallait que les hypothèses prennent leur place, et puis qu'elles soient balayées par un testament, le seul possible. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ce chemin de l'amour mutuel qui est la seule chose qui ait réussi, au fond, à sortir du tombeau de Pâques. Le reste est voué à disparaître, après avoir semé le doute, le malaise, l'incompréhension, les théories qui semblent bien fonctionner mais qui ne débouchent sur rien, après toutes ces voies stériles, un chemin praticable se présente devant nous. Attention, mettez vos crampons, ça monte. Mais, arrivé en haut, la vue vaut la peine, paraît-il. Amen.